Et c'est le journal de Cécile Bideau. Bonjour Cécile.
Bonjour. Sur un fil, pour ne pas être submergé par la cinquième vague de Covid-19, le gouvernement français impose, sans contraindre, un difficile exercice d'équilibriste qui le conduit à écarter les mesures les plus radicales. Le télétravail obligatoire est de retour, les jauges aussi, mais ni couvre-feu, ni fermeture des lieux culturels et sportifs, et une rentrée des classes en temps et en heure. Nous détaillons tout cela dans un instant. L'arme première du gouvernement, c'est toujours la vaccination et il compte sur le futur pass vaccinal pour convaincre les plus réticents. Aveu d'échec pour la France insoumise, mesure punitive pour le Rassemblement national. Christelle Robière, votre invitée, s'ajoutera à la liste des réactions politiques.
Oui, Sandrine Rousseau, invitée du grand entretien dans 20 minutes. Et au-delà de la crise sanitaire, il y a bien sûr la campagne présidentielle. La présidente du conseil politique du candidat écologiste Yannick Jadot ne cache pas son enthousiasme pour une éventuelle candidature de Christiane Taubira. Un rassemblement de la gauche est-il possible? Autour de qui? Sur quelles idées? Chers auditeurs, appelez-nous dès maintenant 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
Et à propos de présidentiel, nous continuons à vous dévoiler les secrets de la pré-campagne. Aujourd'hui, quand Emmanuel Macron remue ciel et terre pour trouver des archives sur Valérie Pécresse. Dans ce journal, la mobilisation des magistrats prête à repartir dès les prochains jours. Et puis nous sommes à Pékin, où les comédies musicales françaises sont très tendance. Vous entendrez Roméo et Juliette en chinois.
France Inter.
Comme à Noël, Jean Castex ne veut pas être le père fouettard du nouvel an. Le Premier ministre a annoncé hier soir qu'il n'y aurait pas de couvre-feu dans la nuit du 31 décembre, pas plus que dans les jours qui suivront. Face à une vague de Covid-19 qui ne diminue pas en intensité et un variant Omicron qui continue de gagner du terrain, le gouvernement préfère appeler à la responsabilité des Français plutôt que de leur imposer des mesures contraignantes. Mais il y a quand même quelques exceptions, quelques obligations et interdictions pour 3 semaines à partir de lundi. Les jauges sont de retour. Les domaines de la culture et du sport sont les principaux concernés. Pas plus de 5000 personnes rassemblées au même endroit en extérieur. Ça tombe à 2000 en intérieur et les concerts debout sont interdits. Et puis il va falloir se remettre au travail à distance. Il redevient obligatoire 3 jours par semaine, voire 4 pour les emplois où le télétravail est possible. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour.
On n'est donc plus là dans le facultatif, hein.
Le télétravail, lorsqu'il est praticable, ne sera plus optionnel, a dit Jean Castex, et il sera massif, mais ce ne sera pas non plus du 100% télétravail. La présidente de l'Association nationale des DRH, Audrey Richard, s'en félicite car il fallait à tout prix, dit-elle,
d'éviter absolument le full télétravail, 5 jours sur 5, et le confinement. Et ce qui a été dit, c'est plutôt de l'intensification, donc ça nous va plutôt bien. Personne n'est fan du télétravail 5 jours. On a vu les impacts sur de la santé psychologique de certaines personnes.
Autre bonne nouvelle selon elle, l'absence de report de la rentrée scolaire qui permettra aux parents de travailler plus sereinement à la maison. Reste à voir comment l'ensemble des secteurs s'empareront de cette obligation, l'appréciation de la possibilité ou non de télétravailler sur certaines tâches restant sujettes à débat dans les entreprises.
Et notamment dans l'industrie, Claire, où l'absentéisme pose problème.
Oui, ici ou là, les indicateurs sont déjà dans le rouge, de plus en plus de contaminations et cas contacts. Christine Reynaud, DRH de Solustil, entreprise spécialisée dans la tôlerie industrielle, n'a pas été rassurée hier soir.
On a la majeure partie des salariés qui sont sur des lignes de production qui ne peuvent pas télétravailler. Depuis le 15 novembre à peu près, on sent que ça monte parce qu'on a eu plus d'absentéisme avec un arrêt de production possible. Si nous ne livrons pas nos clients, on risque de mettre les clients en arrêt de chaîne. Après, il y a des pénalités. L'inquiétude est forte.
L'allègement envisagé, mais pas encore tranché, des mesures d'isolement pour les cas contacts serait en revanche une avancée pour cette entreprise, même si, estime cette DRH, ce ne sera pas non plus la solution miracle.
Merci Claire Chaudière. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, rencontre les partenaires sociaux aujourd'hui pour mettre en œuvre ce télétravail obligatoire. Il risque d'avoir de gros effets perturbateurs pour les entreprises, dit ce matin sur France Info le président délégué du MEDEF, Patrick Martin. Parmi les petits plaisirs interdits à partir de lundi, manger et boire dans les lieux culturels. Fini le pop-corn dans les cinémas. Cela s'applique aussi aux transports, même longue distance. L'objectif, c'est que personne ne baisse le masque dans ces endroits. Terminé aussi, temporairement, heureusement, l'expresso avalé au comptoir. Dans les cafés et les bars, il n'est plus question de consommer debout. Hier soir à Paris, dans le quartier de Châtelet, on se demandait déjà comment faire asseoir les clients. Reportage de Rémi Brancato.
Au California.
à bar, on est assez serré pour boire un verre.
Hour, c'est jusqu'à 22h.
Entre deux tables, certains gardent leur verre à la main. Ryan Jabelkir, l'un des deux serveurs, sait que ça ne va pas durer.
Il y a encore des gens qui consomment debout, mais on va pas tarder à leur dire d'aller s'asseoir.
À partir de lundi, fini les consommations debout. C'est un moindre mal pour Rémi et Marie.
Pourquoi pas, sachant que là, en ce moment, il y a beaucoup de cas qui sont en train d'augmenter. Autant essayer de réduire.
On est content que ça soit pas fermé et qu'on puisse quand même profiter.
À l'entrée, un vigile contrôle déjà les passes sanitaires. Pour Ryan, obliger les clients à consommer assis risque d'être difficile.
Déjà pour les masques, on court derrière les clients, faut que vous mettiez le masque, faut que vous mettiez le masque. Là aujourd'hui, ça va être, asseyez-vous. C'est sûr qu'on va pas les prendre et par les épaules et puis les faire s'asseoir, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de contraintes. On en a marre là, ça fait maintenant un an que je dis que j'en ai marre. Autant s'asseoir directement chez soi et puis boire chez soi tranquillement. Il y en a qui font ce choix-là et je peux que les comprendre.
Du côté des clients, William n'a pas l'impression que la mesure changera les choses.
Si le personnel du bar veut que sa clientèle continue de venir et tout ça, ils vont être obligés d'accepter les gens et forcément il y aura des gens debout. Généralement, on va dans les bars, on reste debout. De temps en temps, on danse et tout quoi.
Ça fait déjà quelques semaines que danser, c'est interdit.
C'est vrai, c'est pas forcément respecté.
En attendant, pour se lever et commander un verre au bar, beaucoup oublient déjà de remettre leur masque.
Le masque va aussi faire son retour plus massivement en extérieur, dans les zones où on se bouscule, comme les centres historiques et les rues piétonnes. Le gouvernement laisse la main aux préfets et aux maires pour prendre des arrêtés, comme c'est déjà le cas aujourd'hui.
Finalement, l'un des mots les plus employés hier soir par les ministres, c'est celui de vaccination.
Et Olivier Véran n'a pas exclu une quatrième dose. C'est une possibilité, a dit le ministre de la Santé. En attendant, la durée entre la deuxième et le rappel est ramenée à 3 mois. Jean Castex ne s'en est pas caché. Le gouvernement veut mettre la pression sur les non-vaccinés, notamment avec le pass vaccinal qui prendra la place du pass sanitaire à partir du 15 janvier. Si la loi est votée, elle est examinée à partir de demain en commission à l'Assemblée nationale. Elle prévoit notamment que l'amende pour utilisation de faux QR codes soit portée à 1 000 euros. 200 000 fraudes sont aujourd'hui recensées par le gouvernement. Écoutez Jean Castex.
Je veux vous dire combien cette pratique me scandalise, comme Premier ministre bien sûr, mais comme citoyen. C'est beaucoup plus qu'un contournement de la loi républicaine, déjà en soi très condamnable. C'est un acte délibéré de mise en danger d'autrui. Aucune conviction personnelle ne saurait le justifier. Ce n'est pas admissible et nous devons collectivement nous donner les moyens de l'enrayer et de le sanctionner plus lourdement.
Le Premier ministre a également confirmé que la rentrée des classes était maintenue au 3 janvier. Des soignants demandaient pourtant son report d'une semaine pour éviter que les établissements ne deviennent des foyers de contamination après les fêtes. Le porte-parole de la candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse, Geoffroy Didier, regrette cette décision.
Le gouvernement fait le choix de tout miser sur la vaccination alors que nous savons que ce n'est pas suffisant. Le gouvernement a beaucoup parlé ces derniers jours et les actions ne sont pas forcément à la hauteur des angoisses qu'il a suscitées. Sur l'école, sur la stratégie de test, les mesures ne sont pas à la hauteur du risque et de la situation. Et le risque réel que prend aujourd'hui le gouvernement est de ne pas anticiper les problèmes qui auront lieu le 3 janvier au moment de la rentrée scolaire avec des enseignants qui seront sans doute malades, des classes qui seront sans doute fermées et des parents d'élèves qui ne pourront pas au tout dernier moment s'organiser.
Geoffroy Didier, eurodéputé LR, joint par William Delesseux, invité de France Inter ce matin. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, annonce qu'un élève contaminé devra présenter 2 tests négatifs avant de pouvoir revenir en cours. Le gouvernement n'a pas encore tranché sur la durée de l'isolement des malades et des cas contacts. Elle pourrait être réduite, décision d'ici à la fin de la semaine. Point par point, vous retrouvez toutes les mesures annoncées hier soir par le gouvernement sur le site internet de France Inter. France Inter, il est 8h09. Les 2 alpinistes français disparus dimanche en Argentine ont été retrouvés sains et saufs. Ils avaient entrepris l'ascension du plus haut volcan du monde qui culmine à près de 6900 mètres dans les Andes. Ils se sont retrouvés en difficulté à cause de conditions météo difficiles. L'armée israélienne a mené ce matin une frappe aérienne sur le port de Latakié en Syrie. C'est la deuxième attaque de ce type ce mois-ci. Israël cible des position gouvernementale stratégique et d'éventuels stocks d'armes détenus par l'Iran et le Hezbollah. On a du mal à l'imaginer vu de notre fenêtre avec les températures douces de cette fin d'année. Le nord-ouest des États-Unis est sous la neige. En Californie, on bat même des records de flocons. Il est tombé près de 5 mètres sur la Sierra Nevada. C'est là-bas le mois de décembre le plus enneigé de l'histoire. Les magistrats français ont l'intention de commencer 2022 comme ils ont terminé cette année, en se mobilisant pour une justice digne et de qualité. Le 15 décembre dernier, ils se sont rassemblés devant les palais de justice pour dénoncer le manque de moyens qui les contraint à juger vite et mal. Rejoints par des greffiers, des avocats, tous syndicats confondus, c'était un mouvement inédit. Après la trêve en cette période de fête, la bataille va donc reprendre, l'Aurélie Carive.
Sitôt passée la pause de la fin d'année, l'intersyndicale doit se réunir dès la semaine prochaine. Pas question de s'arrêter là, on est face à un mouvement inédit, resté sans réponse satisfaisante. Insiste-t-on du côté de l'USM, syndicat majoritaire chez les magistrats, sa présidente Céline Parizeau.
Malheureusement, l'attitude du ministre reste dans un discours un peu d'autosatisfaction sur les augmentations de budget dont il oublie de dire qu'elles touchent majoritairement la pénitentiaire, que la justice elle-même en bénéficie quand même assez peu. C'est assez décevant.
Pour autant, des changements concrets venus de la base se font déjà sentir dans les juridictions. Sur fond de ras-le-bol général, il a par exemple été décidé par endroit d'en finir avec les audiences qui se terminent au milieu de la nuit. C'est le cas à Nantes, Lille, Pau. Anne-Sophie Vallat, qui est secrétaire nationale du syndicat de la magistrature.
En fin d'année, il y a des assemblées générales qui se tiennent dans toutes les juridictions et il y a eu des accords qui ont été pris pour faire en sorte que les audiences ne se finissent plus à des heures indues. C'est déjà mis en place dans certaines juridictions. Et ça va se poursuivre.
Mais évidemment, ça ne règle pas la question des moyens humains, des délais qui s'allongent, d'où ce mouvement que les organisations espèrent dans la durée et surtout interprofessionnel. Magistrats, greffiers, avocats côte à côte, car disent-elles, tout le monde pâtit de cette justice dégradée.
Comme chaque matin à 8h cette semaine, France Inter vous emmène dans les coulisses de la campagne présidentielle.
3 mois et demi avant le premier tour, le 10 avril prochain, nous avons choisi de vous raconter ces histoires de la pré-campagne, passées inaperçues mais qui en disent beaucoup sur l'état d'esprit des candidats ou futurs candidats. Aujourd'hui, Maxence Lambrec, le jour où Emmanuel Macron a exploré les archives concernant Valérie Pécresse. Nous sommes début décembre, la candidate de la droite vient d'être investie.
Au lendemain de sa victoire, l'équipe d'Emmanuel Macron s'est lancée à la recherche de son passé, porte-parole du gouvernement à la fin du quinquennat Sarkozy. Parfait, allons sur le portail de l'Élysée. Première recherche.
Bon, je vais faire le compte-rendu de ce conseil des ministres qui a été introduit, comme à chaque fois, par le président de la République.
Stéphane Le Foll, ses 150 points presse disponibles.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue.
Najat Vallaud-Belkacem, tout est là.
Est-ce que vous avez des questions ?
Valérie Pécresse, 2011-2012, aucun résultat. En partant, Sarkozy a bien fait le ménage, lance un communicant du pouvoir. Deuxième tentative, l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, conserve tous les discours des présidents, certains contenus sont payants, un macroniste est prêt à sortir sa carte bleue, mais non, rien de rien, l'INA n'a rien gardé des comptes rendus de Valérie Pécresse. Troisième essai, Google, Pécresse 2012, ouf, une interview de France Inter, où elle défend son champion, pas encore candidat.
Je crois que le temps de la présidentielle viendra, alors je sais que ça doit être frustrant pour les candidats à la présidentielle de ne pas avoir encore d'adversaire.
Aujourd'hui, 10 ans plus tard, elle s'en prend au double jeu d'Emmanuel Macron, séquence immédiatement reprise par toute la Macronie qui poursuit ses fouilles dans les archives des médias pour riposter le moment venu.
Et demain, nous vous raconterons comment la poésie est entrée dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon. En rugby, Montpellier reste sur le podium après sa victoire à Biarritz 27-12 lors de la 13e journée du top 14 hier soir. La Rochelle tire également son épingle du jeu, se classe 4e après avoir dominé Lyon 25-3. Le rayonnement français à l'étranger ne passe pas uniquement par la cuisine. Les comédies musicales de chez nous remportent un franc succès en Chine. Parmi les spectacles devenus des classiques à Pékin, Notre-Dame de Paris, Mozart, l'Opéra Rock ou encore Les Misérables, interprétés en version originale. En ce moment, c'est Roméo et Juliette qui font l'événement. Et pour la première fois, la comédie musicale est jouée en chinois. Correspondant de France Inter à Pékin, Sébastien Berriot a assisté à une représentation.
L'épidémie semble presque oublié le temps d'une soirée, 1200 spectateurs au théâtre Tianxiao de Pékin qui vibrent au rythme des chansons de Roméo et Juliette, tout aussi connues ici qu'en France. Mais pour la première fois, c'est en chinois dans le texte. Le le public chinois est depuis longtemps friand des comédies musicales françaises. Voilà l'explication d'Ayunga, qui interprète ce soir Roméo. À 32 ans, il est l'un des chanteurs les plus connus du moment en Chine.
Les comédies musicales françaises ont un style très particulier. Roméo et Juliette et Notre-Dame de Paris sont entrés dans le cœur des spectateurs chinois. À la télévision, je chante souvent Les Rois du Monde et Le Temps des Cathédrales. Ça illustre bien le romantisme français.
Ce passage du français au chinois, c'est l'idée du producteur du spectacle, Zhang Ligang.
Le français est une langue étrangère pour nous. Cela empêche de nombreux spectateurs d'entrer dans le théâtre pour apprécier le spectacle.
Et cette version chinoise semble appréciée par le public.
La version chinoise est plus proche du public chinois. Ça nous permet de bien comprendre cette histoire d'amour. Mais si on propose la version française, pourquoi pas ? C'est un échange entre deux cultures.
Preuve de son succès, le spectacle en version chinoise est présenté dans une vingtaine de villes en Chine. Une tournée de 6 mois. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
Voilà pour le voyage musical. Je vous propose maintenant un voyage dans le temps. Hier à Richmond, dans l'État américain de Virginie, une capsule temporelle a été découverte, cachée dans le socle d'une statue d'un général de la guerre de sécession qui a été déboulonnée en septembre. Elle date de 1890 et pourrait bien contenir une photo d'Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis. La boîte métallique rectangulaire, messagère d'un autre temps, a pour l'instant été passée au rayon X. Les collectionneurs espèrent que le cliché y sera découvert dans les heures qui viennent.
Eh bien, on le saura, nous aussi, dans les heures qui viennent. Vous reviendrez nous en parler demain. Merci Cécile Bideau. La météo, Stéphanie Fromentin.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Stéphanie, les perturbations pluvieuses se succèdent.
Et celle qui a balayé le pays hier n'a pas encore totalement évacué l'est de l'Hexagone, que déjà une nouvelle est arrivée par l'ouest dans la nuit. Elle est bien active, apportant des pluies localement soutenues et beaucoup de vent entre le Grand Est et les Alpes ce matin. Elle est suivie de près par une autre perturbation bien active qui touche le sud-ouest au réveil pour s'étendre sur une large moitié sud en cours de journée, quasiment jusqu'au bord de Loire et jusqu'au Jura. Des nuages déborderont aussi vers les régions méditerranéennes, mais la Provence et la Corse devraient bénéficier de belles éclaircies, tout comme à l'opposé le quart nord-ouest qui pourra profiter d'un ciel plus lumineux. A noter que ces perturbations sont accompagnées de vents, 50 à 60 km par heure dans l'intérieur des terres, 70-80 sur les littoraux et une tramontane qui souffle par rafale de 80-90 km par heure.
Et les températures sont extrêmement douces pour la saison.
Quelques degrés de douceur dans un ciel agité, bienvenue dans le printemps du 28 décembre.
C'est ça.
Les températures sont très largement supérieures au normal de saison, 7 à 8 degrés de plus. Il fera cet après-midi 10 à 16 degrés en général, 15 à 20 au sud de la Garonne et autour de la Méditerranée. Vous pourrez compter sur 11 degrés à Roubaix, 12 à Rouen ou Rodez, 14 à Paris, Nantes et Aix-en-Provence, 16 à Bordeaux comme à 7, jusqu'à 18 degrés à Hyères et Toulouse, voire 19 à Bayonne.
Merci Stéphanie, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Il est 8h17, géopolitique.
Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter.
Bonjour Pierre Aski.
Bonjour Christelle.
Ce matin, vous avez choisi d'évoquer la situation qui ne cesse de se dégrader en Birmanie.
Oui, depuis le coup d'état militaire de février dernier, la Birmanie vit une répression sans cesse croissante et tous les appels à de véritables pressions internationales contre la junte sont restés lettres mortes. Une étape de plus vient d'être franchie dans sa descente aux enfers. Avec le massacre, imputé à l'armée, de 35 personnes dont des enfants, la veille de Noël, abattues et brûlées. Deux employés de l'ONG internationale Save the Children, qui se trouvaient dans l'un des minibus carbonisés, sont portés disparus. Cette tragédie s'est déroulée près d'un village de la minorité chrétienne, près de la frontière avec la Thaïlande, et les villageois fuyaient apparemment les combats entre les militaires et un groupe de résistance armée. Les Nations Unies se disent horrifiées par ce massacre, le plus grave depuis le début de la répression il y a 10 mois, mais le secrétaire général adjoint de l'organisation ne peut pas faire plus que de demander une enquête approfondie, c'est-à-dire rien.
Et quelle est la situation dans le pays ?
Depuis qu'ils ont renversé le gouvernement civil et assigné à résidence sa principale dirigeante, Aung San Suu Kyi, les militaires n'ont pas pu stabiliser la situation. Malgré la répression féroce, la résistance passive et active de la population n'a pas cessé. Plus inquiétant pour le régime, des milliers de jeunes ont rejoint les rangs des armées ethniques qui existent depuis longtemps et plusieurs foyers de résistance armée s'opposent à la junte. Mais cette résistance a peu de chances de l'emporter à court terme, armes, pas plus que l'armée n'a la possibilité de l'éradiquer. Elle n'y est pas parvenue en plusieurs décennies d'insurrection. On compte des dizaines de milliers de réfugiés et déplacés. Dans cette impasse totale, les militaires persistent et signent. Ils doivent annoncer dans les prochains jours une peine de prison pour Aung San Suu Kyi, qui reste malgré tout la référence d'une majorité de la population.
Que peut-il se passer alors ?
Le Myanmar, l'autre nom de la Birmanie, va devenir un État failli, écrit l'historien birman-américain Thant Minh U dans la revue Foreign Affairs. Et de nouvelles forces, ajoute-t-il, vont profiter de cet échec pour développer l'industrie déjà prospère des méthamphétamines, une drogue de synthèse, raser des forêts qui constituent l'une des grandes zones de biodiversité au monde et promouvoir le trafic d'animaux sauvages, y compris ceux qui sont peut-être responsables de la pandémie de Covid-19. Ce pronostic sombre de cet historien, petit-fils de l'ancien secrétaire général de l'ONU, U Thant, devrait pousser les pays de la région et les grandes puissances à éteindre l'incendie birman aussi vite que possible. Mais les pays du sud-est asiatique sont divisés sur la manière d'agir et la communauté internationale est polarisée, ce qui rend tout consensus impossible, surtout aux portes de la Chine. L'accès du régime à l'argent et aux armes n'a pas été bloqué efficacement. Le pire est l'indifférence. La Birmanie a disparu de l'attention du monde pour n'y revenir que lorsqu'un massacre dépasse la norme. C'est le cas aujourd'hui, mais il est à craindre que ça ne change rien.
Merci Pierre Aski. Dans un instant, le grand entretien de la matinale avec Sandrine Rousseau.